Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonsoir à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Rav Lemel, bonsoir et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Alors Rav Lemel, on va poursuivre avec vous notre étude de la semaine. Alors, on a changé de paracha, on est maintenant sur la paracha de Pinchas. Mais vous, vous voulez réfléchir un peu avec nous sur la période des trois semaines, puisqu'on y est, on vient d'y entrer. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que vous voulez nous en dire?
Alors c'est vrai, pourquoi j'avais envie de vous parler de cette période des trois semaines, parce qu'au fond, elle est connectée très fort quand même avec Pinchas, puisque Pinchas va avoir un acte très particulier dans l'histoire, et Dieu va lui dire « Hineni notenu et beriti shalom », Dieu lui donne son alliance de paix, et en effet on nous dit que la paix revient entre Dieu et son peuple, et que la tension qui avait pu se mettre en place va venir et s'apaiser. Or, nous savons très bien que cette période de trois semaines, c'est justement la période dans laquelle on doit particulièrement travailler sur le concept du shalom, sur le concept de la paix. Rappelons-nous de ce texte très connu du Talmud, de la Gemara, qui nous dit que « Rishonim nidgale avonam nidgale kitsam ». Le premier temple, leur faute était connue, et donc c'est pour cela que l'exil et sa durée vont être connus. L'exil ne durera pas tant que cela. Pourquoi ? Parce que pour le premier temple, ils se sont analysés, ils savaient très bien qu'il y avait des dysfonctionnements, des mœurs plutôt légères, un rapport à l'autre très moyen. Il y avait aussi une tendance très forte à aller vers le monde des idoles. Et donc, ayant pris conscience de ce qui s'était passé, ils ont pu donc commencer à se repentir. Par contre, dit le Talmud, le second temple, l'onit galé avonam, ils n'ont pas pris conscience de leurs erreurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle, malheureusement, l'exil et cet exil dans lequel nous sommes toujours, même si nous sommes évidemment dans les prémices de cette Goula, de cette libération définitive, est toujours quand même présent. Et c'était quoi au fond? Les maîtres vont dire, c'est tout simplement sinatrinam, cette fameuse haine gratuite. On en parle tellement. Mais la question est de savoir, c'est quoi vraiment la haine gratuite? Et surtout, comment est-ce qu'on va faire pour travailler pour que cette notion de haine gratuite disparaisse? Alors, peut-être que la première problématique, c'est tout simplement le fait que lorsque l'on voit l'autre dans sa réussite, ça nous dérange. Parce que tout simplement, on aimerait nous parfois être dans cette réussite que l'autre n'a pas. Et puis, au fond, quand l'autre fait quelque chose qui nous déplaît, on va tout de suite avoir une vision négative de cet autre. Au fond, c'est un regard qui n'est pas bienveillant. Et malheureusement, nous savons que c'est la tendance profonde de l'humain de fonctionner de cette manière, puisque Rabbeinu Yona, un très célèbre maître, disait « Darkan shelabriot, le galot et taraot, ou le chasot et atovot », que la nature profonde de l'être, c'est d'abord de révéler ce qui ne va pas et de mettre de côté ce qui va, mais pas juste de révéler en parlant, mais de faire exister face à lui avant tout les éléments dysfonctionnels qu'il va voir, soit dans les systèmes qui l'entourent ou soit chez les autres. Et le chasot, de recouvrir ce qui va bien, c'est-à-dire, bien sûr qu'il va voir les éléments positifs, mais on les recouvre, on les oublie, on les relativise. Pourquoi ? Parce que c'est Darkan chez la briotte, disent nos maîtres, parce que c'est ainsi que fonctionne l'humain, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se voir comme étant quelqu'un de mauvais parce qu'on fonctionne de cette manière. C'est la nature profonde de l'être. Et donc, évidemment, c'est une invitation à faire un travail, c'est une invitation justement à se transformer. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que tout d'abord, on ne va pas se sentir coupable de réaliser qu'on a tendance à fonctionner de cette manière, puisque c'est Darkan chez la briotte, c'est la nature profonde des créatures. Et donc, on n'est pas des êtres mauvais, on est des êtres normaux, mais qui avons oublié que justement, nous devons faire ce travail. Alors, pour cela, il y a des choses toutes simples qu'il faudrait mettre en place. Et ces choses, ça serait d'apprendre d'abord à voir tous les éléments positifs qui sont présents chez les autres, pas juste les voir, mais leur donner de la place, leur donner de l'importance, être touché par des choses qui nous semblent parfois pour nous tellement normales, mais qui pour l'autre sont extraordinaires. Et j'ai envie de partager avec vous une expérience merveilleuse que j'ai faite l'autre jour. Vous savez, le matin, parfois, il m'arrive de prier dans une jour, j'arrive, et puis là-bas, il y a quelques jeunes filles qui sont venues. Alors, elles se sont mises dans un endroit pour accueillir des enfants qui allaient aller après à ces fameux Gan Israël. Et alors, c'est extraordinaire parce que elles faisaient peut-être un petit peu de bruit, mais au fond, c'est extraordinaire. Elles se sont levées tôt. Il est 7 heures du matin pour accueillir des enfants. C'est ça qu'il faut être capable de voir. Et puis, vous voyez arriver des enfants. Et c'était tellement mignon. Vous en voyez un petit garçon qui arrive. Et puis, dès qu'il rentre, il sort ses tzitzit. On voit bien qu'il ne vient pas nécessairement d'une famille très pratiquante. Mais vous voyez cet enfant qui arrive. Il n'a pas de kippa sur la tête, mais il sort ses tzitzit tellement fier de montrer qu'il les a. Eh bien, c'est ça qu'il faut apprendre à voir. Avoir cette petite fierté de cet enfant qui dit ben, moi aussi j'ai des tzitzit, de voir ces jeunes filles, c'est vrai qu'ils vont discuter entre elles, mais qui sont là tôt. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles vont s'occuper d'enfants, elles vont s'investir par rapport à eux. Certains diront, elles reçoivent peut-être une petite paye, d'ailleurs, j'en sais rien, mais même si c'est ça, il y a ici une notion de Messirut Nefesh. C'est un petit peu. Toutes ces notions-là qu'on devrait être capable de voir, toutes ces notions-là qu'on doit être capable d'intégrer à l'intérieur de nous, et en ne le faisant au quotidien, c'est peut-être ce qui nous permettra justement de pouvoir accéder à cette avatrinam, à cet amour des autres, et qui sera au fond l'élément qui préfigurera, et on l'espère tellement fort, la venue du Mashiach et la Goula Shlema.
Alors, on va essayer effectivement de regarder les gens avec un air positif. Je suis pas sûr que ce soit aussi facile à faire que tel que vous le décrivez, vous. J'en profite d'ailleurs, c'est peut-être le moment. On peut encore s'inscrire dans les Gan Israël hein, pour ceux qui souhaitent donner une éducation juive à leurs enfants, y compris pendant les vacances. Je profite des propos du Rav pour dire un mot là-dessus. On se renseigne sur le soir, on va voir les Lubavitch et on peut trouver. Voilà, Rav Lemel, je vous remercie. Et je vous souhaite un très beau Shabbat. Bonsoir à vous et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gué. Bonsoir Rav Gué et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Alors Rav Gué, vous voulez parler des 3 semaines, qu'on appelle aussi des journées finalement redoutables, Ben HaMetzarim. On vous écoute.
Oui, alors en fait, ce sont les Yamim d'Oraim sont des jours redoutables. Là, c'est plutôt des jours, on va dire, de deuil pour la destruction du temple. Les deux temples qui ont été détruits le 9 A, mais aussi parce qu'on parle Ben HaMetzarim entre les deux dates, qui sont des dates terribles pour l'histoire juive. La première, c'est la faute du veau d'or. Donc le 17 Tammuz, Moïse descend de la montagne et il casse les louchotes suite parce qu'il constate les danses autour du veau d'or. Et 3 semaines plus tard, c'est la destruction du temple, mais c'est avant cela déjà la faute des explorateurs qui pleurent la fameuse nuit entre le 8 et le 9 Av. Ce qu'on appelle Bechia Shetridam, une pleure gratuite, et où effectivement, suite à ce pleur qui est appelé gratuit dans la Torah, eh bien, on va avoir un pleur tout à fait justifié, celui de la destruction des deux temples. Donc ça, c'est pour replacer un petit peu historiquement la raison pour laquelle nous faisons ces 3 semaines. Je voudrais juste ici rappeler qu'il y a 22 jours, puisque c'est 3 semaines avec le premier et le deuxième jour inclus. Donc 22 jours comme les 22 lettres de l'alphabet. Il y a également 22 jours entre Rosh Hashanah et Simchat Torah, puisque en Israël, il n'y a que 8 jours à Sukkot. Donc ça fait exactement 22 jours. Et ces 22 jours correspondent l'un à l'autre parce que il faut bien comprendre que dans une relation, on peut prendre l'exemple d'un couple, par exemple, on a le côté positif, c'est-à-dire lorsque monsieur rencontre madame, enfin, rencontre, il passe un bon moment avec sa femme, par exemple, ils prennent un repas ensemble et qu'il y a un échange fort entre eux, un échange émotionnellement fort entre eux. Ça, c'est un moment où on apprécie la proximité à travers un échange. Et puis des fois, monsieur ou madame voyage Et là, l'un et l'autre se languissent et ils apprécient leur relation à travers l'éloignement. C'est-à-dire lorsqu'ils sont éloignés, ils ressentent combien ça laisse un vide et combien ils veulent absolument se retrouver. Et en fait, ce sont deux facettes d'une même pièce. Le Rav Wolben, au nom de son maître, le Rav Yerucham, appelait la période des trois semaines que nous vivons en ce moment « Moed Shel Rihouk ». Littéralement, Moed, c'est une fête, mais c'est aussi un moment de réunion. C'est un moment où on apprécie la relation avec Hachem à travers l'éloignement. C'est-à-dire que nous devrions ressentir le manque. C'est-à-dire l'absence d'Hachem, l'absence de la présence de la Shekhina sur le monde du temps, parce que je vous rappelle que même si beaucoup de nos frères habitent en Israël, la finalité pour nous tous, c'est la venue du Mashiach et la reconstruction du troisième temple. Tant que cela n'est pas réalisé, eh bien, nous aspirons toujours à cette rédemption, à cette venue de ces deux éléments fondamentaux qui vont totalement changer la donne dans le monde entier et en Israël en particulier, puisque le Beth Amikdash, c'est en fait le lieu de jonction entre ciel et terre. C'est la porte du ciel. Aujourd'hui, il y a le Kotel, mais il n'y a rien derrière, ou plutôt il y a une mosquée. Et nous voulons absolument pouvoir remonter sur le temple et faire les sacrifices et retrouver cette proximité avec Hachem que l'on appréciait pendant les trois fêtes en particulier, mais pas seulement. Et donc lorsque, pendant ces trois semaines, nous pleurons cette absence de Shekhina, ce Dieu qui se cache, qui se révèle à travers des beaux miracles également, mais qui se cache généralement, nous avons un sentiment de languissement. Nous languissons Hachem, et à travers cela, nous nous rapprochons d'Hachem. C'est-à-dire que le fait de ressentir cet éloignement est en fait en soi-même un moyen de se rapprocher de Dieu. Il est écrit que celui qui porte le deuil de Jérusalem aura droit de voir sa reconstruction. Pour pouvoir avoir le mérite de voir la reconstruction du temple, il faut ressentir le manque de ce temple. Alors comment est-ce qu'on ressent le manque de ce temple? Alors là, le Rav Wolben nous faisait remarquer quelque chose d'extraordinaire dans un Shulchan Aruch, l'œuvre de Rav Yosef Karo, l'auteur donc de ce Shulchan Aruch, au troisième chapitre, c'est le premier chapitre déjà. Il écrit là-bas « Ra'ou ilechol yireshamaim », il convient à tout celui qui craint le ciel, liot metzar vedoeg, d'être soucieux et de sentir une souffrance de l'absence de la Shekhina et de le fait que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit. Alors, le Chidouché Arim, un grand sage qu'on appelait le Rabbi de Gour, Chidouché Arim, parce qu'il a écrit un livre, ça va être Chidouché Arim, Rabbi Yitzhak Meir de Gour, il disait, mais le Shulchan Aruch est écrit pour tout le monde. Même quelqu'un qui n'a pas de Yirat Shamaim, de crainte du ciel, doit appliquer le Shulchan Aruch. Et le Rav de répondre, il est impossible de ressentir de la peine dans l'absence de Dieu, si on n'a pas la crainte du ciel. On ne ressent rien si on n'a pas cette qualité-là d'être Yirei Shamaim. Et là, effectivement, le Rav nous posait la question, il disait, mais qu'est-ce qu'on fait si on ne ressent pas la peine? Eh bien, il répondait la chose suivante, si on ne ressent pas l'absence de Dieu, ne ressent pas la peine l'absence du Beth Amikdash, du Temple, eh bien, il faut porter le deuil et ressentir la peine, de ne pas ressentir la peine.
Non.
C'est-à-dire mais comment je peux être aussi insensible à ce qui a été le cœur même de la vie juive, ce temple, le service divin au temple? Comment est-ce que je peux être aussi insensible à un cœur de pierre, un cœur qui ne ressent pas cette envie de pouvoir appliquer toutes les mitzvot, de voir tout le peuple juif réuni sur sa terre à l'unisson dans le service divin, sans les guerres et sans cet antisémitisme terrible. Au contraire, il sera le phare des nations, il sera celui qui apportera les nations, toutes les nations du monde viendront apporter des sacrifices à Jérusalem, en particulier pendant la fête de Sukkot, et ressentiront que c'est à travers ce sacrifice-là qu'ils bénéficieront d'une bénédiction dans leur pays. Donc ce sera un moment où Jérusalem deviendra le centre du monde, et le service divin sera pour tout le monde le centre de leur vie. Se dire que le monde dans lequel nous vivons peut être, entre guillemets, acceptable, et on peut peut-être se suffire de notre service à chacun, de nos prières et de notre Shabbat, etc., eh bien, ça montre un éloignement de Dieu. Et ne pas ressentir ce manque est en soi déjà une raison de porter un deuil sur soi-même et son incapacité à comprendre le vrai sens des choses et ce que vraiment ce qui doit être. Ce qui doit être, c'est que la Shekhina, la présence divine, pleure son éloignement. Elle pleure aussi le fait que nous ne sommes pas sensibles à son éloignement. Et donc nous devons, à travers ces trois semaines, porter le deuil sur justement nous-mêmes et notre incapacité à avoir cette sensibilité-là. Et donc je trouvais cet enseignement très important. Le Rav Volbon nous le répétait chaque année. Il considérait que c'était fondamental de le ressentir. Parce que malheureusement, beaucoup d'entre nous, peut-être moi-même, et beaucoup d'entre nous, on a du mal à pleurer pendant cette période. On a du mal à ressentir le manque. On se dit c'est les vacances. On a envie de se reposer, d'aller à la mer, ou à la piscine, ou je ne sais où, de monter sur les montagnes. On a tous envie de se détendre. Pourquoi juste à cette période-là, tellement festive et tellement sympathique, eh bien, il faut porter le deuil de Jérusalem. Mais il faut le savoir que cette période, effectivement, Tammuz et Av, comme l'explique Ben Ishraï et d'autres, évidemment, avant lui, sont devenus les mois qui appartiennent à Esav. Alors, j'explique pourquoi. Il y avait quatre patriarches prévus, Avraham, Yitzhak et Yaakov, plus Esav. Esav a perdu son statut de patriarche et l'année était partagée en 3 mois fois 4, donc 4 fois 3 mois, et les mois d'appartenant à Esav c'était Ozur, Tammuz et Av. Il y avait aussi Elul, mais Elul on l'a récupéré grâce au Stichot, grâce à ce préparatif à Rosh Hashanah, donc c'est Tshuva ces jours-là, donc on a récupéré Elul, mais Tammuz et Av sont toujours dans l'escarcelle de Esav, donc des mois difficiles, des mois d'éloignement, des mois dans lesquels finalement le peuple juif a touché le fond. Eh bien, nous devons tous, pendant ces mois-là, essayer de comprendre que cet éloignement de Dieu, ça sera peut-être l'occasion pour nous de nous rapprocher de Dieu. Lorsqu'on ressent son absence, eh bien, quelque part, on se rapproche de lui. Si on pense, disait le Baal Shem Tov, qu'on est proche de Dieu, on en est loin. Si on pense qu'on est loin, on en est proche. C'est-à-dire en ressentant qu'on est loin de Dieu, c'est que véritablement on comprend combien ce que c'est être proche d'Hachem et le fait de faire ce que nous faisons au quotidien, c'est magnifique, on fait des choses, on fait chacun des efforts, et c'est très loin d'être suffisant pour être vraiment proche de lui. Donc c'est cette prise de conscience que nous devons tous réaliser pendant cette période.
Bien, on va essayer, en ayant bien compris en vous écoutant que c'est un travail. Je pense aussi que la période terrible qui dure fait que on sent quelque chose quand même de particulier. Et avec votre permission, j'ai entendu un enseignement du Rabbi Lubavitch qui dit la fameuse phrase Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Quand on rentre dans le mois de Adar, on multiplie les joies. Et quand on rentre dans la période qui est la nôtre aujourd'hui, on diminue la joie. Mais ma'itim besimcha. Et donc, paraît-il que le rabbi disait, là maintenant dans cette période, mais ma'itim, on diminue, besimcha. Oui. Mais on le fait avec joie.
Avec joie. Alors, c'est vrai que lorsqu'on fait des mitzvot, il faut toujours être dans la joie, effectivement. Ça, c'est un moment qui doit être tout le temps un moment de joie, effectivement.
Rav Gueh, je vous remercie. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, merci.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. Et c'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à tous Shabbat Shalom. Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmari, shalom shokat shoyim.